Chapitre 7. Service de la reine. Il avait plu à Verse pendant un grand mois, plu sur un camp de 30 000 hommes et de milliers de chameaux, d'éléphants, de chevaux, de bœufs et de mulets, tous rassemblés en un endroit appelé Rawalpindi, pour être passés en revue par le vice-roi de l'Inde. Le vice-roi recevait la visite de l'amir d'Afghanistan, roi sauvage d'un pays plus sauvage encore, et l'amir avait mené comme garde du corps 800 hommes avec leurs chevaux, qui n'avaient jamais vu un camp ni une locomotive de leur vie. Des hommes sauvages et des chevaux sauvages, nés quelque part au fond de l'Asie centrale. Chaque nuit, on pouvait être sûr qu'une troupe de ces chevaux briserait leurs entraves et galoperait du haut en bas du camp, à travers la boue, dans l'obscurité, ou que les chameaux romperaient leurs entraves et se mettraient à courir et à tomber par-dessus les cordes des tentes, et l'on peut imaginer quel agrément c'était là pour des gens qui avaient envie de dormir. Ma tente était dressée loin des lignes de chameaux, et je la croyais à l'abri. Mais, une nuit, quelqu'un passa brusquement la tête à l'intérieur et s'écria « Sortez, vite, ils viennent, ma tente est par terre !» Je savais qui ce « il » voulait dire. Aussi, j'enfilai mes bottes, mon caoutchouc, et me précipitai dehors dans le gâchis. La petite Vixen, mon forcerier, sortit par l'autre côté. Puis on entendit gronder, grogner, gargouiller, et je vis la tente s'affaler, tandis que le mât se cassait net et se mettre à danser comme un fantôme en démence. Un chameau s'était empêtré dedans, et tout furieux et mouillé que je fusse, je ne pus m'empêcher de rire. Puis je continuai de courir, car je ne savais pas combien de chameaux pouvaient s'être échappés. Et peu de temps après, hors de vue du camp, je pataugeais à travers la boue. À la fin, je trébuchais sur la culasse d'un canon et j'aperçus que je me trouvais non loin des lignes de l'artillerie, là où on dételait les canons pour la nuit. Ne me souciant pas de barboter plus longtemps dans la brume et dans le noir, je mis mon caoutchouc sur la bouche d'un canon, construisis une sorte de wigwam à l'aide de 2 ou 3 refouloirs trouvés là par hasard et m'étendis le long de l'affût de notre canon, inquiet d'où Vixen était passé et d'où je pouvais bien me trouver moi-même. Au moment où je me préparais à dormir, j'entendis un cliquetis de harnais et un grognement, tandis qu'un mulet passait devant moi en secouant ses oreilles mouillées. Il appartenait à une batterie de canons à vis, car je distinguais un bruit de courroies, d'anneaux, de chaînes et de toutes sortes de ferrailles sur sa selle matelassée. Les canons à vis sont de tout petits canons faits de 2 parties que l'on visse ensemble quand arrive le moment de s'en servir. On les hisse sur les montagnes, partout où peut passer un mulet, et ils rendent de grands services pour combattre en terrain rocailleux. Derrière le mulet venait un chameau dont les gros pieds mous s'écrasaient et glissaient dans la boue et qui balançait le cou comme une poule égarée. Heureusement, j'entendais assez le langage des bêtes, non pas des bêtes sauvages, mais celui des bêtes de camp, naturellement, que m'avaient appris des indigènes pour savoir ce qu'ils disaient. Ce devait être le même qui s'était étalé dans ma tente, car il interpella le mulet. « Que faire? Où aller? Je me suis battu avec une chose blanche qui flottait, et elle a pris un bâton et m'a frappé au cou. » C'était le mât brisé de ma tente, et cela me fit plaisir. « Continuons-nous à courir ?»« Ah, c'est vous, dit le mulet, vous et vos collègues, qui avez ainsi bouleversé le camp. On vous recevra en conséquence ce matin, mais autant vous donner un acompte. » J'entendis le cliquetis des harnais et le chameau reçut dans les côtes 2 ruades qui sonnèrent comme sur un tambour. « Cela vous apprendra, dit-il, à courir une autre fois à travers une batterie de mulets, la nuit, en criant « Au voleur et au feu !» Couchez-vous et tenez votre grand nid de cou tranquille. » Le chameau se replia à la façon des chameaux, en équerre, et se coucha en geignant. On entendit dans l'obscurité un bruit rythmé de sabots sur le sol, et un grand cheval de troupe arriva au petit galop d'ordonnance, comme à la parade, franchit la culasse d'un canon et retomba tout près du mulet. C'est honteux, dit-il en soufflant par les naseaux. Ces chameaux ont encore dévalé dans nos lignes. C'est la 3e fois cette semaine. Le moyen pour un cheval de rester en forme si on ne le laisse pas dormir. Qui va là? Je suis le mulet d'affût du canon numéro 2 de la première batterie à vis, dit le mulet. Et l'autre est un de vos amis. Il m'a réveillé aussi. Et vous ? Numéro 15, troupe E, 5e lancier. Le cheval de Dickenlife. Un peu de place, s'il vous plaît, là. Oh, pardon, dit le mulet, il fait si noir qu'on n'y voit guère. Ces chameaux sont-ils assez dégoûtants ? J'ai quitté mes lignes pour chercher un peu de calme et de repos par ici. Messeigneurs, dit le chameau avec humilité, nous avons fait de mauvais rêves dans la nuit et nous avons eu très peur. Je ne suis qu'un des chameaux de convoi du 39e d'infanterie indigène et je ne suis pas aussi brave que vous, messeigneurs. Alors, pourquoi ne pas rester à porter les bagages du 39e d'infanterie indigène au lieu de courir partout dans le camp ? Dit le mulet. C'était de si mauvais rêves, dit le chameau. Je suis bien fâché. Écoutez, qu'est-ce que c'est ? Faut-il courir encore ? Couchez-vous, reprit le mulet, ou bien vous allez vous rompre vos longues perches de jambes entre les canons. Il dressa l'oreille aux écoutes. Des bœufs, dit-il. « Des bœufs de batterie. Ma parole, vous et les vôtres avez réveillé le camp pour de bon. Il faut un joli boucan pour faire lever un bœuf de batterie. » J'entendis une chaîne traîner au ras du sol et un attelage de ces grands bœufs blancs taciturnes qui traînent les lourds canons de siège quand les éléphants ne veulent plus avancer sous le feu, arrivant en s'épaulant. Sur leurs talons, marchant presque sur la chaîne, suivait un autre mulet de batterie qui appelait avec affolement Billy. C'est une de nos recrues, dit le vieux mulet au cheval de troupe. Ici, jeunesse, assez braillée, l'obscurité n'a jamais encore fait de mal à personne. Les bœufs de batterie se couchèrent en même temps et se mirent à ruminer, mais le jeune mulet se blottit contre Billy. Des choses, fit-il, d'affreuses et horribles choses, Billy. C'est entré dans nos lignes tandis que nous dormions. « Pensez-vous que ça va nous tuer ?»« J'ai grande envie de t'allonger un coup de pied numéro 1, » dit Billy. « A-t-on idée d'un mulet de 4 pieds 6 pouces, avec ton éducation, qui déshonore la batterie devant ce gentleman ?»« Doucement, doucement, » dit le cheval de troupe. « Souvenez-vous qu'on est toujours comme cela pour commencer. La première fois que j'ai vu un homme, c'était en Australie et j'avais 3 ans, j'ai couru une demi-journée, et si ça avait été un chameau, je courais encore. Presque tous nos chevaux de cavalerie anglaise dans l'Inde sont importés d'Australie et sont dressés par les soldats eux-mêmes. C'est vrai, après tout, reprit Billy. Assez tremblé comme cela, jeunesse. La première fois qu'on me plaça sur le dos le harnais complet avec toutes ses chaînes, je me dressai sur mes jambes de devant et à force de ruades, jetai tout à terre. Je n'avais pas encore acquis la véritable science de ruer, mais ceux de la batterie disaient n'avoir jamais rien vu de tel. Mais ce n'était ni harnais, ni rien qui tinta, dit le jeune mulet. Vous savez, Billy, que maintenant cela ne me fait rien. C'était des choses grandes comme des arbres, et elles tombaient du haut en bas des lignes et gargouillaient. Ma bride s'est cassée, et je ne pouvais pas trouver mon conducteur. Je ne pouvais même pas vous trouver, Billy. Alors je me suis sauvée avec ces gentlemen. Fit Billy. À l'annonce de la débandade des chameaux, j'ai filé pour mon propre compte. Lorsque mulet de batterie de canon à vis, traite de gentlemen des bœufs de batterie, il faut qu'ils se sentent bien émus. Qui êtes-vous, vous autres, là, par terre ? Les bœufs refoulèrent leur nourriture et répondirent tous deux à la fois. Le 7e jour du premier canon de la grosse batterie de siège. Nous dormions lorsque les chameaux sont arrivés, mais quand on nous a marché dessus, nous nous sommes levés et nous sommes partis. Il vaut mieux dormir tranquille dans la boue que d'être dérangé sur une bonne litière. Nous avons dit à notre ami qu'il n'y avait pas de quoi s'effrayer, mais il savait tant de choses qu'il en a pensé autrement. Ouah ! Ils continuèrent à ruminer. « Voilà ce que c'est d'avoir peur, » dit Billy. « On se fait blaguer par des bœufs de batterie. Je pense que cela te fait plaisir, jeunesse. » Les dents du jeune mulet sonnèrent et j'entendis qu'il parlait de ne pas avoir peur d'aucun vieux biftec du monde. Mais les bœufs se contentèrent de faire cliqueter leurs cornes l'une contre l'autre et continuèrent de ruminer. Ne te fâche pas maintenant, après avoir eu peur. C'est la pire espèce de couardise, dit le cheval de troupe. Je trouve très pardonnable d'avoir peur la nuit lorsqu'on voit des choses qu'on ne comprend pas. On s'est échappé de nos piquets des douzaines de fois, par bandes de 450 ensemble, et cela parce qu'une nouvelle recrue s'était mise à nous conter des histoires de serpents fouets qu'on trouve chez nous, en Australie, au point que nous mourions de peur à la seule vue des cordes pendantes de nos licous. Tout cela est bel et bon dans le camp, observa Billy. Je ne laisse pas de m'emballer moi-même pour la farce quand je reste à l'écurie un jour ou deux. Mais que faites-vous en campagne ? Oh, c'est une toute autre paire de bottes, dit le cheval de troupe. J'ai Dicklen Life sur le dos, alors, et il m'enfonce ses genoux dans les côtes. Tout ce que j'ai à faire, c'est de regarder où je mets le pied, de bien rassembler mon arrière-main et d'obéir aux rênes. Qu'est-ce que cela, obéir aux rênes ? Demanda le jeune mulet. Par les gommiers bleus d'Australie, renacla le cheval de troupe, voulez-vous me faire croire qu'on ne vous a pas appris dans votre métier ce que c'est que d'obéir aux rênes ? À quoi êtes-vous bon si vous ne pouvez pas tourner tout de suite lorsque la reine vous presse l'encolure ? C'est une question de vie ou de mort pour votre homme et, bien entendu, de vie ou de mort pour vous. On commence à appuyer, l'arrière-main rassemblée, au moment où on sent la pression de la reine sur l'encolure. Si on n'a pas la place de tourner, on pointe un peu et on se reçoit sur ses jambes de derrière. Voilà ce que c'est que d'obéir aux reines. On ne nous apprend pas les choses de cette façon, dit Billy, le mulet, froidement. On nous enseigne à obéir à l'homme qui nous tient la figure, à avancer lorsqu'il le dit et à reculer lorsqu'il le dit également. Je suppose que cela revient au même. Maintenant, tout ce beau métier de fantasia et de panache, qui doit être bien mauvais pour vos jarrets, à quoi vous mène-t-il ? Cela dépend, répondit le cheval. Généralement, il me faut entrer au milieu d'un tas d'hommes hurlants et chevelus, armés de couteaux, de longs couteaux brillants, pire que les couteaux du vétérinaire. Et il me faut faire attention à ce que la botte de Dick touche juste, sans appuyer, la botte de son voisin. Je vois la lance de Dick à ma droite de mon œil droit, et je sais qu'il n'y a pas de danger. Je n'envie pas la place de l'homme ou du cheval qui se trouverait dans notre chemin, à Dick et à moi, lorsque nous sommes pressés. « Est-ce que les couteaux font mal ?» demanda le jeune mulet. « J'en ai reçu une estafilade en travers du poitrail une fois, mais ce n'était pas la faute de Dick. » « Je me serais bien occupé de qui c'était la faute si on m'avait fait mal !» interrompit le jeune mulet. « Il faut s'en occuper, repartit le cheval de troupe. Si vous n'avez pas confiance dans votre homme, aussi bien décamper tout de suite. Quelques-uns de nos chevaux s'y entendent et je ne les blâme pas. Comme je disais, ce n'était pas la faute de Dick. L'homme était couché sur le sol et je m'allongeai pour ne pas l'écraser, mais il me lança une estocade de bas en haut. La prochaine fois que je franchis un homme couché par terre, je pose le pied dessus et ferme. Hum, dit Billy, tout cela paraît bien absurde. Les couteaux me font l'effet de sales outils en toutes circonstances. Mieux vaut escalader une montagne, une selle bien équilibrée sur le dos, se cramponner des quatre pieds et des oreilles, grimper, ramper et se faufiler, jusqu'à ce qu'on débouche à des centaines de pieds au-dessus de tout le monde, sur une saillie, juste à la place de ses sabots. Alors on s'arrête et on ne bouge plus. Ne demande jamais à un homme de te tenir la tête, jeunesse. On ne bouge pas pendant qu'on visse les canons, et puis on regarde tomber parmi les hautes branches des arbres, très loin au-dessous, les petits obus pareils à des coquelicots. Vous ne butez donc jamais ? Demanda le cheval de troupe. On dit que lorsqu'un mulet bronche, on peut fendre l'oreille à une poule, répondit Billy. De temps en temps, peut-être une selle mal paquetée fera verser un mulet, mais c'est très rare. Je voudrais pouvoir vous apprendre notre métier. C'est une belle chose. Eh bien, il m'a fallu 3 ans pour découvrir ce que les hommes me voulaient. Toute la science consiste à ne pas se détacher sur la ligne du ciel, parce que si vous le faites, on peut vous tirer dessus. Souviens-toi de cela, jeunesse. Reste toujours caché le mieux possible, même s'il faut faire un détour d'un mille dans ce but. C'est moi qui mène la batterie quand on arrive à ce genre d'escalade. » Se laisser fusiller sans une chance de courir sus aux gens qui tirent, fit le cheval de troupe en réfléchissant profondément. « Je ne pourrais pas supporter cette idée-là. Je voudrais charger avec Dick. » « Oh non, vous ne voudriez pas. Vous savez qu'aussitôt en position, ce sont les canons qui font toute la charge. Voilà qui est scientifique et net. Mais les couteaux, pouah !» Il y avait quelque temps que le chameau de convoi balançait sa tête de ci et de là, cherchant à glisser un mot dans la conversation. Et je l'entendis qui disait timidement, en toussant pour s'éclaircir la gorge, « J'ai fait un peu la guerre, mais ce n'était pas en grimpant, ni en courant comme cela. » Non, maintenant que tu le dis, repartit Billy, on s'en aperçoit. Tu n'as pas beaucoup l'air fait pour grimper ou courir. Eh bien, comment cela se passait-il chez toi, balle de foin ?
De la vraie manière, répondit le chameau, nous nous couchions tous.
Oh, croupière et martingale ! S'exclama le cheval de troupe entre ses dents. Couchés ?
Nous nous couchions une centaine environ, continua le chameau, en un grand carré, et les hommes empilaient nos cajouas, nos charges et nos selles à l'extérieur du carré. Puis ils tiraient par-dessus notre dos, oui, de toutes les faces du carré.
Quelle sorte d'hommes ? N'importe quels hommes au hasard ? Demanda le cheval de troupe.
On nous apprend à l'école du cavalier à nous coucher et à laisser nos maîtres tirer par-dessus nous. Mais Dick Unlife est le seul homme à qui je me fierais pour cela. Cela me chatouille au passage des sangles et, en outre, je n'y vois rien avec la tête sur le sol.
« Que vous importe qui tire par-dessus vous ? » répondit le chameau. « Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de chameaux tout près et des masses de fumée. Je n'ai pas peur alors. Je reste tranquille et j'attends. »
« Et cependant, dit Billy, vous faites de mauvais rêves et vous bouleversez le camp la nuit. Eh bien, avant que je m'étende, je ne parle pas de me coucher, et que je laisse un homme tirer par-dessus mon corps, mes talons et sa tête auraient quelque chose à se dire. A-t-on jamais entendu parler de choses pareilles ?»
Il y eut un long silence. Puis un des bœufs de batterie leva sa grosse tête pour dire
« Tout cela est vraiment fort absurde. Il n'y a qu'une manière de combattre. »
Oh, allez-y, dit Billy. Je vous en prie, ne vous gênez pas pour moi. Je suppose que vous autres, vous combattez en vous tenant debout sur la queue.
Une seule manière, dirent-ils tous deux ensemble. Ils devaient être jumeaux. La voici. Mettre nos 20 attelages au gros canon aussitôt que Double Queue commence à trompeter.
Double Queue est le nom d'argot de camp par lequel on désigne l'éléphant.
Pourquoi Double Queue trompette-t-il ? Demanda le jeune mulet.
Pour déclarer qu'il n'ira pas plus près de la fumée en face. Double Queue est un grand poltron. Alors nous tirons tous ensemble le gros canon.
Eya oula ! Eya oula !
Nous ne grimpons pas, nous autres, comme des chats, ni ne courons comme des veaux. Nous cheminons par la plaine unie, nos 20 joues à la fois, jusqu'à ce qu'on nous dételle. Puis nous paissons, tandis que les gros canons causent à travers la plaine, avec quelques villes derrière des murs de terre. Et des pans de murs croulent, et la poussière s'élève, comme si là-bas, de grands troupeaux rentraient à l'étable.
« Oh, et vous choisissez ce moment-là pour paître ?» dit le jeune mulet.
« Ce moment ou un autre, manger est toujours bon. Nous mangeons jusqu'à ce qu'on nous remette le joug et tirons de nouveau le canon pour revenir où Double Queue l'attend. Parfois, il y a dans la ville de gros canons qui répondent et quelques-uns d'entre nous sont tués. Mais alors, il y a plus à paître pour ceux qui restent. C'est le destin, voilà tout. » N'importe, Double Queue est un grand poltron. Voilà la vraie manière de combattre. Nous sommes deux frères, nous venons de Hapur. Notre père était taureau sacré de Shiva, nous avons dit.
Eh bien, j'ai certainement appris quelque chose ce soir, dit le cheval de troupe. Et vous, messieurs de la batterie des canons à vis, vous sentez-vous enclin à manger quand on vous tire dessus avec de gros canons et que Double Queue suit par derrière? À peu près autant qu'à nous vautrer par terre et à laisser des hommes s'étaler sur nous ou à courir parmi des gens à coutelas. Je n'ai jamais entendu de pareille bile visée. Une saillie de montagne, un fardeau bien équilibré, un conducteur à qui s'en remettre pour vous laisser poser les pieds à votre choix, et je suis votre mulet. Mais les autres choses, non, dit Billy en frappant du pied. Évidemment, reprit le cheval de troupe, tout le monde n'est pas fait du même bois, et je vois bien que dans la famille, du côté de votre père, on devait être lent à saisir beaucoup de choses.
La famille de mon père ne vous regarde pas, s'écria Billy avec colère, car tous les mulets détestent s'entendre rappeler que leur père est un âne.
Mon père était un gentleman du Sud qui n'aurait pas été gêné de mettre en charpie n'importe quel cheval. Mets-toi ça dans la tête, gros Brumby.
Brumby veut dire rossard sans origine. Imaginez les sentiments d'Ormonde si un cheval d'omnibus le traitait de carcan, et vous pouvez vous figurer ce que ressentit le cheval australien. Je vis le blanc de ses yeux étinceler dans l'obscurité.
Dites donc, fils de baudet d'importation malaguée, fit-il en serrant les dents. Je vous apprendrai que je suis apparenté, du côté de ma mère, à Cardine, le vainqueur de la Coupe de Melbourne, et nous ne sommes pas habitués dans mon pays à nous laisser passer sur le ventre par un mulet à langue de perroquet et à tête de cochon dans une batterie de pétardières et de chassepots. Êtes-vous prêts ?
Debout sur les jambes de derrière, brailla Billy. Tous deux se cabrèrent face à face et je m'attendais à un furieux combat lorsqu'une voix gargouillante qui roulait sourdement sortit de l'obscurité à droite.
« Enfant, qu'avez-vous à vous battre ? Calmez-vous »
Les deux bêtes retombèrent en renâclant de dégoût, car cheval ni mulet ne peuvent s'ouvrir la voie de l'éléphant.
« C'est double queue, dit le cheval de troupe, je ne peux pas le supporter. Une queue à chaque bout, c'est trop. »«
Exactement mon avis, dit Billy en se pressant contre le cheval pour se rassurer. On a des points communs. »
« Nous tenons ça de nos mères, dit le cheval de troupe. À quoi bon se chamailler pour si peu ? Hé, double queue, êtes-vous attaché ?»«
Oui, répondit double queue, dont le rire roula tout le long de sa trompe.
Je suis au piquet pour la nuit. J'ai entendu ce que vous disiez, vous autres. Mais n'ayez pas peur, je reste où je suis. »
Les bœufs et le chameau dirent à mi-voix.
« Peur de double queue, quelle absurdité ! »
Et les bœufs continuèrent.
Nous sommes fâchés que vous ayez entendu, mais c'est vrai, double queue. Pourquoi avez-vous peur des canons lorsqu'ils parlent ?
Eh bien, dit double queue en frottant une de ses jambes de derrière contre l'autre, exactement comme un petit garçon qui récite une fable.
Je ne sais pas tout à fait si vous comprendriez.
Nous ne comprenons pas, mais cependant il faut tirer jusqu'au bout les canons, reprirent les bœufs.
« Je le sais, et je sais aussi que vous êtes beaucoup plus brave que vous ne pensez. Mais pour moi, c'est différent. Le capitaine de ma batterie m'a appelé l'autre jour pachyderme anachronique. »«
Quelque autre façon de combattre, je suppose, » dit Billy qui reprenait ses esprits.
« Vous ne savez pas ce que cela veut dire naturellement. Moi, je le sais, cela signifie entre le zist et le zest. Et c'est juste où j'en suis. Je puis voir dans ma tête ce qui arrivera quand un obus éclate. Et vous autres, bœufs, vous ne pouvez pas. »
Moi, je peux, dit le cheval de troupe, à peu près du moins. J'essaie de ne pas y penser.
Je vois mieux que vous, et j'y pense, moi. J'ai plus de surface qu'un autre à préserver, et je sais qu'une fois malade, personne ne connaît la manière de me soigner. Tout ce qu'ils peuvent faire est de suspendre la solde de mon cornac jusqu'à ce que je me remette, et je ne peux pas me fier à mon cornac.
Ah, dit le cheval de troupe, cela explique tout. Je peux me fier à Dick.
On me percherait un régiment entier de Dick sur le dos sans que je me comporte mieux. J'en sais juste assez pour me sentir mal à l'aise et pas assez pour aller de l'avant malgré tout.
« Nous ne comprenons pas, » dirent les bœufs.
« Je sais que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas à vous que je parle. Vous ne savez pas ce que c'est que du sang. »«
Oui, nous le savons, » répliquèrent les bœufs. « C'est une chose rouge qui imbibe la terre et qui sent. »«
Le cheval de troupe lança une ruade, fit un bond et s'ébroua.
« Ne parlez pas de cela, dit-il, je le sens d'ici rien que d'y penser. Cela donne envie de se sauver quand on n'a pas d'ique sur le dos. »
« Mais il n'y en a pas ici, dirent le chameau et les bœufs. Pourquoi êtes-vous si stupide ?»«
C'est une sale chose, dit Billy. Je n'ai pas envie de me sauver, mais n'aime pas à en parler. »
« Vous y êtes, dit Double Queue en agitant sa queue pour expliquer.
« Sûrement.
Oui, nous avons été ici toute la nuit, dirent les bœufs.
Double Queue frappa le sol du pied en faisant résonner son anneau de fer.
« Oh, je ne vous parle pas à vous. Vous ne pouvez pas voir à l'intérieur de vos têtes. »«
Non, nous voyons par nos quatre yeux, dirent les bœufs. Nous voyons droit en face de nous. »
« Si je n'étais capable que de cela et de rien autre, vous n'auriez pas besoin de tirer les gros canons. Si je ressemblais à mon capitaine, il peut voir, lui, les choses à l'intérieur de sa tête avant que le feu commence. Et il tremble du haut en bas, mais il en sait trop pour fuir. Si je lui ressemblais, je pourrais tirer les canons à votre place. Mais si j'étais aussi malin que tout cela, je ne serais jamais venu ici. » Je serai roi dans la forêt, comme j'avais coutume, dormant la moitié du jour et me baignant à mon gré. Je n'ai pas pris mon bain depuis un mois.
Tout cela sonne très bien, dit Billy, mais il ne suffit pas de donner à une chose un nom qui n'en finit pas pour y changer quoi que ce soit.
Chut, fit le cheval de troupe, je crois que je comprends ce que Double Queue veut dire.
Vous comprendrez mieux dans une minute, dit Double Queue en colère. Pour le moment, expliquez-moi pourquoi vous n'aimez pas ceci. »
Il se mit à trompeter furieusement de toute sa force.
« Arrêtez !» dirent ensemble Billy et le cheval de troupe. Et je pus les entendre trépigner et frémir. La trompette d'un éléphant impressionne toujours désagréablement, surtout dans la nuit noire.
« Je ne m'arrêterai pas !» dit Double Queue. « Tâchez de m'expliquer cela, s'il vous plaît. »
Puis il s'arrêta tout à coup et j'entendis dans l'obscurité une petite plainte qui m'apprit que Vixen m'avait enfin retrouvé. Elle savait aussi bien que moi que la chose au monde que redoute le plus l'éléphant, c'est un petit chien qui aboie. Aussi, elle se mit en devoir de persécuter Double Queue dans ses piquets et jappa autour de ses gros pieds. Double Queue s'agita et s'écria «
« Allez-vous-en, petit chien, ne flairez pas mes chevilles, ou bien je vais vous donner un coup de pied. »«
Bon petit chien, gentil petit chien, là, là, rentrez à la maison, vilaine bête jappante. »«
Oh, personne ne l'ôtera donc de là, il va me mordre dans une minute. » »«
Paraît, dit Billy au cheval de troupe, que notre ami Double Queue a peur à peu près de tout. » Si on m'avait donné une pleine ration par chien auquel j'ai rué dans les mâchoires sur le champ de manœuvre, je serais à cette heure presque aussi gros que Double Queue. Je sifflai et Vixen courut à moi toute crottée, me lécha le nez et me raconta une longue histoire sur ses recherches à ma suite dans le camp. Je ne lui ai jamais laissé savoir que je comprenais le langage des bêtes, de peur qu'elles prennent ensuite toutes sortes de libertés. Aussi, je la boutonnai dans le devant de mon manteau, tandis que Double Queue s'agitait, foulait le sol et grondait en lui-même.
« C'est extraordinaire, tout à fait extraordinaire, un mal qui court dans notre famille. Maintenant, où est-elle passée, la sale petite bête ?»
Je l'entendis tâter autour de lui avec sa trompe.
« Je crois que nous avons tous nos faiblesses, chacun les siennes, » continua-t-il en se mouchant. « Tout à l'heure, vous autres, messieurs, paraissiez inquiets, je crois, lorsque je trompétais. »«
Pas inquiets exactement, dit le cheval de troupe, mais cela me faisait comme si j'avais eu des frelons à la place de ma selle. Ne recommencez pas. »«
J'ai peur d'un petit chien, et le chameau que voici a peur la nuit des mauvais rêves. »«
C'est heureux de n'avoir pas à combattre tous de la même façon, dit le cheval de troupe. »
« Ce que je voudrais savoir, dit le jeune mulet qui avait gardé le silence pendant longtemps, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi il nous faut combattre. »
« Parce qu'on nous le dit, fit le cheval de troupe avec un ébrouement de mépris.
« Ordre donné, » dit Billy le mulet. Et ses dents sonnèrent.
« Hum hai !»«
C'est l'ordre, » dit le chameau avec un glouglou. Et double queue et les bœufs répétèrent.
« Hunk hai !»«
Oui, mais qui donne les ordres ?» demanda le mulet de recrue.
« L'homme qui marche à votre tête. »
« Ou qu'on porte sur le dos. »«
Qui tient votre caveçon. »
« Ou vous tord la queue. » dirent Billy, le cheval de troupe, le chameau et les bœufs l'un après l'autre.
« Mais à eux, qui donne des ordres ?»«
Voilà que tu veux trop en savoir, jeunesse, » dit Billy. « Bon moyen de s'attirer un coup de pied. Tout ce qu'il faut, c'est obéir à l'homme qui vous tient la figure et sans faire de questions. »
Il a raison, dit Double Queue. Je ne peux pas toujours obéir parce que je suis entre le ziste et le zeste. Mais Billy a raison. Obéissez à l'homme près de vous qui donne l'ordre ou bien vous arrêtez toute la batterie et on vous rosse par-dessus le marché.
Les bœufs de batterie se levèrent pour s'en aller.
Le matin vient, dirent-ils. Nous allons nous en retourner à nos lignes. C'est vrai que nous ne voyons que devant nos yeux et que nous ne sommes pas très habiles. Mais c'est nous cependant les seuls ce soir qui n'ayons pas eu peur. Bonsoir, gens de cœur. »
Personne ne répondit et le cheval de troupe demanda, pour changer de conversation,
« Où est ce petit chien ? Un chien, quelque part, cela veut dire un homme. »«
Ici !» jappa Vixen, « sous la culasse du canon, avec mon homme. C'est vous, grosse bête, gros étourneau de chameau, là-bas ? C'est vous qui avez renversé notre tente. Mon homme est très en colère. »
« Peu, » dirent les bœufs, « il doit être blanc. »«
Naturellement, il l'est, » dit Vixen. « Croyez-vous que c'est un bouvier noir qui me soigne ?»«
Wah, watch, hug !» firent les bœufs. « Allons-nous-en promptement. »
Ils plongèrent dans la boue et firent si bien qu'ils enfilèrent leurs joues dans le timon d'un caisson de munitions où il resta fixé.
« Maintenant, ça y est, » dit Billy tranquillement, « ne vous débattez pas, vous voilà en panne jusqu'au jour. »
« Que diable vous prend-il ?»
Les bœufs faisaient entendre les longs ronflements sifflants, familiers au bétail hindou, se pousser, se bousculer, tourner sur eux-mêmes, piétiner, glisser et faillir choir pour finir dans la boue tout en grondant de fureur.
« Vous allez vous casser le cou d'ici un instant, » dit le cheval de troupe.
« Quelle mouche vous pique lorsqu'on parle d'hommes blancs. Je vise avec eux. »
« Ils nous mangent.
« Tire !» dit le bœuf le plus proche.
Le joug claqua avec un bruit sec et ils disparurent pesamment. Je ne savais pas auparavant ce qui effarouchait le bétail hindou à la vue des Anglais. Nous mangeons du bœuf, viande à laquelle ne touche jamais un conducteur de bétail, et naturellement, le bétail n'aime pas cela.
Qu'on me fouette avec mes chaînes de bas, « si j'aurais pensé que deux gros blocs pareils pouvaient perdre la tête, » dit Billy.
« N'importe, je vais voir cet homme. La plupart des hommes blancs, je le sais, ont des choses dans leur poche, » dit le cheval de troupe.
« Je vous laisse alors. Je ne peux pas dire que je les aime plus que cela. D'ailleurs, les hommes blancs sans gîte pour dormir sont la plupart du temps des voleurs et j'ai sur le dos pas mal de propriétés du gouvernement. Viens, jeunesse, et retournons à nos lignes. »
« Bonne nuit, Australie. Au revoir, à la parade demain, je suppose.
Bonne nuit, vieille balle de foin. Tâche une autre fois de ne plus me frapper, hein ?
Bonne nuit, double queue. Si vous nous dépassez sur le terrain, demain, ne trompez pas. Cela dérange l'alignement. »
Billy, le mulet, s'en alla clopinant de son pas à la fois boiteux et martial de vieux militaire. La tête du cheval de troupe vint fouiller dans ma poitrine et je lui donnai des biscuits, tandis que Vixen, qui est la plus vaine des petites chiennes, lui contait des mensonges au sujet des douzaines de chevaux que nous possédions, elle et moi.
« Je vais à la parade demain dans mon dog-cart, » dit-elle. « Où serez-vous ? »
« À la gauche du second escadron. C'est moi qui règle le pas pour toute la troupe, ma petite dame, » répondit-il poliment. « Maintenant, il me faut retourner auprès de Dick. Ma queue est toute crottée et il lui faudra 2 heures de grosse besogne pour me panser avant la manœuvre. »
La grande revue des 30 000 hommes au complet avait lieu dans l'après-midi et Vixen et moi, nous occupions une bonne place tout près du vice-roi et de l'amir d'Afghanistan. Celui-ci, coiffé d'un haut et gros bonnet d'astrakhan noir, portait une grande étoile de diamant au milieu. La première partie de la revue fut superbe et les régiments défilèrent vague sur vague, de jambes se mouvant toutes ensemble et de fusils tous en ligne jusqu'à nous brouiller les yeux. Puis la cavalerie déboucha au son du beau galop de Bonnie Dundee et Vixen dressa les oreilles sur la banquette du dogcart. Le second escadron de lanciers fila devant nous et le cheval de troupe parut, la queue en soie parfilée, faisant des courbettes, une oreille droite et l'autre couchée, réglant l'allure pour tout l'escadron. Et ses jambes allaient comme sur une mesure de valse. Puis vinrent les gros canons et j'aperçus double queue avec deux autres éléphants, attelés de front à un canon de siège de 40, tandis que 20 attelages de bœufs marchaient derrière. La septième paire, qui portait un joug neuf, semblait quelque peu lasse et courbattue. Enfin arrivèrent les canons à vis. Billy, le mulet, se comportait comme s'il eût commandé toutes les troupes, et les cuivres de son harnais huilé de frais faisaient cligner les yeux. J'applaudis, tout seul, Billy le mulet, mais il n'aurait pour rien au monde regardé à droite ou à gauche. La pluie se remit à tomber, et pendant quelque temps, il fit trop de brume pour distinguer les mouvements des troupes. Elles avaient formé un grand demi-cercle à travers la plaine et se déployaient en ligne. Cette ligne s'allongea, toujours, jusqu'à compter 3/4 de mille d'une aile à l'autre. Solide mur d'hommes, de chevaux et de fusils. Puis cela marcha droit sur le vice-roi et l'amir, et à mesure que cela se rapprochait, le sol se mit à trembler comme le pont d'un steamer lorsque les machines forcent la vapeur. À moins d'y être, on n'imagine pas l'effet effrayant de cette ruée en masse de troupes sur les spectateurs, même sachant que ce n'est qu'une revue. Je regardais l'amir. Jusque-là, il n'avait pas manifesté signe d'étonnement ou de quoi que ce fût. Mais alors, ses yeux commencèrent à s'ouvrir de plus en plus. Il rassembla les rênes de son cheval et regarda derrière lui. Un instant, il sembla sur le point de tirer son sabre et de se tailler une route à travers les Anglais, hommes et femmes, qui se trouvaient dans les voitures à l'arrière. Enfin, la marche en avant s'arrêta court, le sol cessa de trembler, la ligne tout entière salua, et 30 musiques commencèrent à jouer ensemble. C'était la fin de la revue, et les régiments retournèrent à leur camp sous la pluie, tandis qu'une musique d'infanterie attaquait. Les animaux allaient deux par deux. Hurrah ! Les animaux allaient deux par deux. L'éléphant et le mulet de batterie, et ils entrèrent tous dans l'arche pour se mettre à l'abri de la pluie. J'entendis alors un vieux chef d'Asie centrale, à longue chevelure grise, venu du nord avec l'amir, poser ses questions à un officier indigène. « Maintenant, dit-il, comment a-t-on accompli cette chose étonnante ?» L'officier répondit « Un ordre a été donné auquel on a obéi. » « Mais les bêtes sont-elles donc aussi sages que les hommes ?» demanda le chef. « Elles obéissent comme font les hommes. Mulet, cheval, éléphant ou bœuf obéissent à son conducteur, le conducteur à son capitaine, le capitaine à son major, le major à son colonel, le colonel au brigadier commandant 3 régiments, le brigadier au général qui obéit au vice-roi, qui est le serviteur de l'impératrice. Voilà comment cela se fait. « Je voudrais bien qu'il en soit de même en Afghanistan, dit le chef, car là, nous n'obéissons qu'à notre propre volonté. » « Et c'est pour cela, dit l'officier indigène en frisant sa moustache, qu'il faut à votre amir, auquel vous n'obéissez pas, venir ici et prendre les ordres de notre vice-roi. »